T'es la porte-parole des élèves, Morgane. Dis-moi, pourquoi toi, tu voulais participer, tu voulais être porte-parole? Qu'est-ce que tu veux dénoncer?
Je veux dénoncer ce qu'ils font à nos professeurs, mais aussi ce qu'ils font à nous. Parce que si ils mettent plus d'élèves dans nos classes, ben ça va faire moins d'aide aux personnes qui en ont vraiment besoin de mon âge.
Et t'envoies des élèves qui ont besoin justement de ces ressources-là, c'est ça?
Oui.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une belle fin de semaine aussi. C'était la fin de semaine de la fête du travail, en tout cas pour ceux qui ne travaillaient pas. Un peu chaud. Mais bon, après tout, c'est encore l'été jusqu'à la fin du mois, donc profitons-en au moins du soleil. Au menu de cette nouvelle émission du Radioblog, des sujets lourds encore une fois. Malheureusement, j'aimerais ça... Vous savez, je m'étais dit en rodant cette émission du Radioblog que j'allais profiter du mois d'août, que ça allait être plus calme, qu'il allait... Tu sais que l'actualité, généralement, l'été, même en fin d'été, c'est tout de même encore relax. Donc j'allais prendre le temps de rôder cette émission. Il arrive les élections fédérales, l'attentat du Thalys entre Amsterdam et Paris... qu'est-ce qui arrive encore, l'assassinat en direct en Virginie, et puis cette semaine l'actualité est pas moins lourde, malheureusement. On va parler beaucoup de l'image des enfants, comment l'image est utilisée. On a eu la semaine dernière deux exemples, je pense flagrants. Si vous avez écouté le Radioblog depuis le début, vous avez entendu d'ailleurs l'extrait d'LCN d'une journaliste qui a interrogé une enfant de 9 ans à peu près, 9-10 ans maximum. On va y revenir là-dessus. Je vais évidemment parler du drame du petit Elan qui a été retrouvé noyé sur une plage de Turquie. On reviendra aussi un peu sur le rapport Robillard et en particulier sur l'idée qui ressort de ce rapport de briser le monopole de la SAQ. Donc de permettre la vente libre d'alcool au Québec. Et puis peut-être aussi quelques petites brèves. C'est le troisième numéro du Radioblog de Québec Presse. Ici Jean-Philippe Rousseau depuis Montréal. Et l'émission commence maintenant. À quel âge notre conscience politique s'éveille-t-elle? Ça, c'est la question que je me suis posée cette semaine. Puis moi-même, j'essayais de me souvenir un peu qu'est-ce qui s'était passé dans mon cas, dans le fond. Parce que c'est quand même... Je me connais bien, on va dire, j'espère, en tout cas. Je pense que à 8, 10, 12 ans, même voire 14 ans, on pense un peu... Ouais, on va s'arrêter peut-être à 12 ans dans un premier temps. On pense un peu comme nos parents. Nos parents disent certaines choses, puis on a tendance à les répéter parce que c'est la figure d'autorité, c'est nos parents, on aime nos parents, puis on a tendance à un peu les imiter dans pas mal de choses, y compris dans les idées, dans la politique, dans ce qu'ils peuvent penser, s'ils ont des idées politiques, bien entendu. Après, peut-être que à l'adolescence, à la préadolescence et à l'adolescence, on a tendance à, pour certains en tout cas, à penser exactement l'inverse. Pas parce que c'est ce qu'on pense vraiment, mais parce qu'on ne veut pas, surtout pas, penser comme nos parents. Donc il y a cette réaction cette crise de l'adolescence, comme on l'entend, et puis elle est valable dans tous les domaines. Elle est valable en éducation, elle est valable aussi dans les idées politiques. Souvent, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Après, quand on devient jeune adulte, parfois on se fout un peu, souvent même, on se fout un peu de la politique, puis on trouve ça plate et puis inintéressant. Et, ou alors, c'est là où on commence à en fonction de, oui c'est vrai, de notre passé, c'est-à-dire des idées de nos parents, de nos amis, à ce qu'on a entendu aussi à l'école, tout ça, ça fait notre expérience et ça fait que on compare les idées, on apprend par soi-même, par nos lectures, par ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on lit dans les journaux. Et tout ça fait en sorte que, petit à petit, nos idées s'aiguisent, nos idées se forgent, se forment. Et ce ne sont plus les idées de nos parents ou les idées de nos professeurs, mais c'est nos idées à nous, personnellement, même si elles sont le fruit de plusieurs influences. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, et puis même à la limite sain. On se fait souvent influencer par des auteurs, par exemple, parfois même par des philosophes, pourquoi pas. Mais ça ne vient pas tout seul et ça ne vient pas juste après une discussion qu'on aurait eue avec nos parents sur un sujet bien déterminé. Ce qu'on a entendu en début d'émission et ce qui m'a le plus scandalisé, les gens ont le droit de manifester devant leur école pour, ou contre plutôt, des positions politiques. Contre le gouvernement, contre le ministère de l'Éducation nationale, contre, je sais pas moi, les commissions scolaires, par exemple. Là où j'ai un gros problème, et puis je n'ai pas été le seul à avoir un gros problème, c'est l'utilisation des enfants. Ça, je trouve ça absolument scandaleux. Une porte-parole des élèves qui avaient genre 10 ans, grand maximum. Et la journaliste. C'est le travail de la journaliste est aussi à pointer du doigt. La journaliste qui trouve ça, à la limite, touchant. On l'entend là, juste dans le ton de sa voix, qu'elle est pratique. Oh, qu'elle est cute. C'est la porte-parole des élèves, il faut l'écouter. Puis elle est gentille. Hein? Puis à la fin, qui lui met des mots dans la bouche. Là, puis tu vois, hein, que t'as des amis hein, qui ont des difficultés qui. Hein? Puis. Tu sais, le genre de réponse où la fille ne peut répondre que oui, je les vois. On va réécouter l'extrait d'ailleurs, parce que il est tellement, tellement symptomatique de ce qui est en train de se passer en ce moment. Écoutez ça.
T'es la porte-parole des élèves, Morgane. Dis-moi, pourquoi toi tu voulais participer, tu voulais être porte-parole? Qu'est-ce que tu veux dénoncer?
Je veux dénoncer ce qu'ils font à nos professeurs, mais aussi ce qu'ils font à nous. Parce que si ils mettent plus d'élèves dans nos classes, ben ça va faire moins d'aide aux personnes qui en ont vraiment besoin de mon âge.
Et t'envoies des élèves qui ont besoin justement de ces ressources-là, c'est ça?
Oui.
Ah, t'envoies des élèves qui en ont besoin de ces ressources-là, hein? Travaille. Je sais pas qui est cette journaliste-là, mais c'est n'importe quoi. Plus voir ça, je serais journaliste. J'irai voir les représentants syndicaux, les parents, et dire, mais c'est pas... Qu'est-ce que vous faites, là? Des porte-paroles qui ont 10 ans? C'est scandaleux. Qu'ils soient de droite, de gauche, de centre, je dirais exactement la même chose. En quoi... Tu sais, quand t'es enfant, quand tu vas à l'école, c'est pour apprendre, c'est pour avoir du fun, c'est pour aller retrouver tes amis, jouer, t'éveiller... faire des calculs, essayer d'écrire en français, apprendre, t'éveiller. Et justement, peut-être, développer un esprit logique, un esprit de réflexion qui va t'amener plusieurs années plus tard à avoir des idées politiques. Mais pas à 10 ans. Ça marche pas. Et les parents qui se justifient en disant oh, « mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'âge pour parler de ça. » Ah non, il n'y a pas d'âge. Hein. Imaginez si c'était des enfants de 10 ans qui étaient à un congrès conservateur. ou même libérale, ça serait un scandale. Et encore une fois, on aurait raison de crier au scandale. C'est une utilisation des enfants absolument scandaleuse. Et personne les challenge. Il n'y a personne qui va leur dire que ça n'a pas de sens. Le pire là-dedans, c'est que parmi les parents d'élèves, enfin parmi les enfants plutôt, qui étaient utilisés comme, moi j'appelle ça des boucliers idéologiques, hein, il y a des parents qui n'étaient même pas au courant que ces enfants participaient activement à cette propagande politique. Parce que ça reste une propagande politique, ni plus ni moins. D'autant plus scandaleux, parce que, à la limite, bon, des parents qui n'ont pas, pas un grand jugement, ça, on pourra faire ce qu'on veut, il y en aura toujours. Mais qu'il y ait des parents qui ne soient pas au courant que leurs enfants soient utilisés par des syndicaleux de ce genre-là, je trouve ça encore pire. Et j'espère qu'il y aura des répercussions, au moins, enfin, s'il y a des professeurs, des établissements scolaires qui ont participé à ça, j'espère qu'il y aura quand même un minimum de sanctions, parce que je trouve ça épouvantable. Ce qui se passe, c'est que le message des syndicats ne passe pas, ou ne passe plus. Ils nous avaient promis un printemps très chaud en 2015. Vous allez voir, le gouvernement Couillard pourra pas faire ce qu'il veut, on va descendre dans la rue, puis on s'attendait presque à un nouveau printemps entre guillemets érable. Mais ça a pas pogné. Et c'est pas faute d'avoir essayé, il y a eu quelques manifestations, mais ça a rien donné du tout. Les carrés rouges, n'en parlons plus. Quand vous avez vu leur leader, là, qui ont à peu près le charisme d'une paire de bas, c'est sûr que ça peut pas marcher. Alors, vu que les chefs syndicaux n'arrivent plus à rassembler, que les carrés rouges, ça marche plus comme avant, qu'est-ce qu'on fait? On sort des enfants. Mettez une gamine de 10 ans en avant des journalistes, il n'y a personne qui va chialer dessus. C'est une gamine. C'est une gamine. 10 ans. Ça se trouve, cette fille-là, elle va revoir... Je sais pas, moi, quand elle aura 18, 20 ans, elle va revoir les images d'LCN où elle est apparue comme ça. Elle va se dire, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Comment j'ai pu faire ça? Comment mes parents ont pu me laisser faire ça? Tu sais, quelqu'un à 10 ans, puis rendu à 18 ans, qui a changé d'avis à peu près 15 fois sur plein de sujets, y compris la politique, c'est quand même pas rare. Ne me faites pas croire que la fille... à LCN, la porte-parole des élèves à LCN a dit vraiment ce qu'elle pensait. Le père ou la mère lui a dit « Hey, quand tu vas voir la madame de la télévision, hein, tu vas lui dire ça. Tu vas lui dire, c'est pas bon, là, moi je défends mon école publique. » Ben oui. Surtout que le budget de l'éducation, comme celui de la santé, a toujours augmenté. D'année après année après année après année. Péquistes, libéraux, ça a toujours augmenté. Ce que le gouvernement actuel, ce que le ministre Blé a demandé, c'est a demandé aux commissions scolaires de réduire leur budget. Les commissions scolaires avaient deux choix. Soit dégraisser dans leur administration, ben oui, mais là, ça suppose peut-être mettre à la porte des amis. Tu sais, avec qui on travaille, tu sais, des administrateurs, des cadres, des gens qui... Tu sais, on le voit parfois dans le Journal de Montréal, les dépenses pour des congrès à Hawaï ou des fêtes au Champagne qu'ils font dans les commissions scolaires. Alors, il y avait le choix de dégraisser leur administration, donc. Ou alors, de s'en prendre au service aux élèves. Et ces imbéciles s'en sont pris au service aux élèves. Les parents, qui malheureusement ne réfléchissent pas assez, plutôt que de se retourner vers les commissions scolaires en leur disant « Hey, c'était à vous de faire votre part », eh bien eux, ils décident de faire des chaînes humaines autour des établissements et de s'en prendre au gouvernement. Je suis pas un libéral, mais là-dessus, il faut reconnaître que la grande responsabilité revient aux commissions scolaires. Malgré tout, le ministre de l'Éducation a quand même son mot à dire. Par exemple, il pourrait commencer par supprimer les commissions scolaires. C'est demandé de plus en plus par les Québécois. Donc il serait temps quand même un peu de les écouter de temps en temps. Ce sont des grosses structures administratives qui ne servent absolument à rien. Il faut redonner le pouvoir aux établissements scolaires et au ministère de l'Éducation nationale. Comme ça, il y a un meilleur contrôle sur les dépenses. Plus vous rajoutez d'intermédiaires, de toute façon, quel que soit le sujet, plus il y a des intermédiaires, plus l'argent se perd. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas la responsabilisation reliée à la dépense. Vous savez, on se dit, quand vous êtes père de famille ou vous avez une famille avec des enfants, l'argent qui rentre, vous en avez la responsabilité. Si vous confiez cet argent-là à quelqu'un qui va le dépenser à votre place, c'est sûr qu'il va y avoir des pertes. Et si cette personne le confie à une autre personne pour le dépenser à votre place, c'est sûr qu'il y aura encore plus de pertes. C'est exactement ce qui se passe dans l'éducation nationale. Il est temps de briser ça, de mettre un frein et de se dire, OK, les commissions scolaires, là, on vous a donné une chance puis une autre, là. C'est terminé. C'est fini. Sujet pas mal plus lourd cette fois. On va revenir à ce drame qui a touché le petit Elan qui est mort noyé sur les plages de Turquie. On va revenir d'ailleurs là-dessus, puis parler un peu du traitement des médias et en particulier de Radio-Canada. Je ne sais pas si vous connaissez une certaine Anne-Marie Dussault. Anne-Marie Dussault présente à RDI l'émission 24-60. C'est une journaliste. Et puis, on reconnaît les bons journalistes. En tout cas, moi, je trouve que on reconnaît les bons journalistes. C'est mon avis personnel. À partir du moment où on n'arrive pas à savoir de quel bord ils sont. Journalistes politiques, surtout, évidemment. De temps en temps, on se dit, ouais, peut-être qu'il est fédéraliste, genre libéral. Puis l'autre fois, tu dis, ah non, il est péquiste, lui. Puis une autre fois, peut-être, ah oh, non, il est vraiment de gauche. Tu sais, on n'arrive pas, quel que soit l'invité qu'il a en face de lui, il va le traiter exactement de la même façon. Il va le challenger, il va essayer de le pousser pour avoir les vraies réponses et puis sortir un peu de la cassette, de la langue de bois dans le fond. Il y en a d'autres, malheureusement, où on sait tout de suite ce qu'ils pensent, où les personnes sont très transparentes. Le jupon ne dépasse même plus. On voit juste ça, le jupon. Anne-Marie Dussault en fait partie. Anne-Marie Dussault, c'est la femme qui se lève la nuit pour haïr Stephen Harper et le gouvernement conservateur. Anne-Marie Dussault, c'est la femme qui va se lever le matin, qui va prendre sa presse, son journal de Montréal, qui va regarder les médias, qui va chercher sur Internet pendant des heures. Puis là, jusqu'où elle va trouver le « Ah, je les ai pognés. J'ai pogné les conservateurs. Je vais faire une émission spéciale là-dessus. » Si ça n'avait pas été aussi terrible que le drame de la noyade d'Hélan et de toutes les victimes de ce naufrage, il ne faut pas l'oublier, il n'a pas été tout seul. Si ça n'avait pas été aussi terrible, j'en aurais ri comme d'habitude. C'est une femme qui est tellement prévisible, Anne-Marie Dussault, que... Qu'est-ce que vous voulez? Elle haït les conservateurs. Bon, ben, c'est ça. À casse peinturée en orange. Au moins, on saura à quoi on a affaire. Mais cette semaine, c'était terrible, parce que... avant même de vérifier des informations, avant même de faire son travail de journaliste... les gens de Radio-Canada et Anne-Marie Dussault ont sauté sur l'occasion de fesser sur le gouvernement Harper. La famille du petit Alan avait demandé d'immigrer au Canada et puis la demande a été refusée. Et là, tout le monde à Radio Tralala, là, dans la grande tour, c'était la fête, là. Comprenez? Ils avaient pogné le gouvernement conservateur, les culottes à terre, et puis ils allaient pouvoir spinner là-dessus. Malheureusement, la formation était fausse. C'était faux. Il n'y avait pas vraiment eu de demande à Immigration Canada. Il y avait la tante qui avait essayé d'utiliser des moyens détournés pour faire immigrer certains membres de sa famille. C'était pas clair. Pas de demande officielle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, que je vous dise? Ça n'a pas de sens. Mais non. Anne-Marie Dussault, elle sait ce que c'est. Elle sait comment ça marche.
Vous la voyez encore une fois, on va vous la montrer que brièvement. C'est la photo de la honte, de la lâcheté, celle du petit Alan, mort noyé, découvert sur une plage en Turquie hier. Nous en avons d'ailleurs parlé à cette émission hier soir. La diffusion de cette image a continué d'avoir des répercussions vraiment partout dans le monde aujourd'hui. Et contre toute attente, le Canada est sur la sellette ce soir.
Et le Canada est sur la sellette ce soir. J'ai pas vérifié mes infos. Je sais pas si ce que je vous dis est vrai, mais je vous le dis pareil. Ça, c'est du Anne-Marie Dussault tout craché. Et pour étayer ces infos, qui ne sont pas vraies, encore une fois, Anne-Marie Dussault aime inviter des professeurs de l'UQAM, qui eux aussi aiment beaucoup Stephen Harper, puis les conservateurs, pour aller dans son sens. Entre autres, on va écouter François Audet, qui lui, il sait pourquoi Alan est mort, noyé sur une plage turque. Écoutez ça.
Le Canada est aussi responsable de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Libye, co-responsable. Donc, on bombarde en Irak, on a fait la guerre en Afghanistan. Tout ça a des conséquences importantes sur les populations civiles. Et clairement, en ce qui me concerne, je suis pas fier d'être Canadien si on ne prend pas la responsabilité, une part de la responsabilité de ça.
Ouais, on baigne là dans un grand océan d'objectivité. On est quand même à Radio-Canada, une émission qui est censée parler d'actualité avec des journalistes. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui sont censés être des experts dans leur domaine, mais quand même, ça mériterait un peu plus d'objectivité que ça. Là, on assiste à un grand mélange, un grand... on va mettre l'intervention en Afghanistan... En 2001, on va, puis jusqu'à ces derniers mois, on va parler des frappes de nos CF-18 contre l'État islamique pour aider la population kurde et chrétienne. On va mélanger tout ça, là. Et puis on va dire que c'est de notre faute. Ben, c'est la faute du Canada. Tout le monde le sait, de toute façon. Tout le monde le sait. On n'arrête pas d'en parler. L'État islamique, c'est le Canada. Al-Qaïda, c'est le Canada. On a même coulé le Titanic, je suis sûr. Sérieusement. C'est beaucoup plus complexe, et ça, vous l'auriez deviné. Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que on part de cette tragédie, cet enfant mort noyé sur les plages turques, et puis on essaye de partir de là et essayer de blâmer le gouvernement Harper. Vu que en fait, il n'y a pas de lien. Ben, on va essayer de trouver des tas d'affaires pour les relier les deux événements, les deux choses ensemble. Donc, on va mettre un peu n'importe quoi. Les frappes que nos avions de chasse font contre l'État islamique, c'est parce que c'est surtout les Kurdes et la population locale, les chrétiens d'Orient, qui la demandent. Ça fait des années qu'ils se font assassiner dans la plus grande indifférence, en particulier l'indifférence d'Anne-Marie Dussault et des gens de Radio-Canada. Et ça mériterait aussi des émissions spéciales, je pense. Des enfants qui se font décapiter parce qu'ils sont chrétiens, dans le nord de l'Irak. Ça, c'est... Ah oui, je comprends. L'image est moins sexy, tu sais, entre guillemets, là. Elle est moins esthétique. Là, c'est cet enfant qui était sur une plage turque, il y avait quelque chose, tu sais, on avait presque l'impression qu'il dormait. Il y avait un côté presque attendrissant à cette horreur. Sauf que de montrer des filles, des fillettes de 5 ans décapitées par l'État islamique, ça par contre c'est tellement trop graphique, tellement trop dur. Pourtant, c'est la mort d'enfants aussi. Pourquoi la mort d'Elan devrait-elle plus choquer que des fillettes qui se font violer, décapiter par l'État islamique? Sans compter les esclaves sexuels. Tant bien que vous soyez un peu plus joli que les autres, vous allez servir d'esclaves sexuels pour les combattants de l'État islamique ou être revendu pour une poignée de dollars. Qu'est-ce qui est le plus terrible? Les deux sont terribles. Mais je ne comprends pas. Ça fait des mois qu'on aide, que le Canada, puis d'autres pays, aident la population kurde, parce que les Kurdes combattent l'État islamique. On devrait, je ne demande pas à ce qu'on saute de joie, mais on devrait féliciter le gouvernement pour son action. On devrait en faire plus, on peut toujours en faire plus, je suis tout à fait d'accord. Mais au lieu de ça, on va se servir d'un enfant qui est mort sur une plage noyée, puis on va dénoncer l'aide qu'on apporte aux Kurdes et aux chrétiens d'Orient. Ça n'a pas de sens. Si on ne fait rien dans le nord de l'Irak, il y aura encore plus d'Elan qui vont se noyer dans la mer Méditerranée. Je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas parce qu'on va frapper l'État islamique qu'il n'y aura plus de réfugiés. J'ai jamais dit ça. Mais ne plus rien faire contre l'État islamique va juste accélérer le mouvement. L'État islamique va avoir les mains libres pour avancer, pour prendre des territoires, pour assassiner tout ce qui n'est pas musulman. Les chrétiens d'Orient sont en train de disparaître. Ils font partie des premiers chrétiens qui se sont établis. Tu sais, leurs ancêtres, c'était les premiers chrétiens. Qu'on croit ou pas en la religion, c'est pas ça l'important. C'est une communauté. C'est comme si on décidait demain matin de se dire qu'il y a une communauté qu'on va faire disparaître. Sciemment. Ça s'est produit dans les années 40. C'est en train de se reproduire en Irak et en Syrie. Puis on ne fait rien. Alors, est-ce que cet enfant qui est mort noyé va faire en sorte qu'on va se réveiller et puis qu'on va prendre des actions contre l'État islamique? J'en sais rien. J'espère. Ça n'en prend pas le chemin. Surtout quand on écoute des pseudo-experts de l'UQAM interrogés par Anne-Marie Dussault, qui devait être en pamoison. Mon Dieu. Il s'en prend aux conservateurs. Ils ont dû se taper dans les mains après l'émission, en se disant « à la prochaine, je vais continuer à surveiller les informations et puis dès que je vois une info qui me permettra de blâmer le gouvernement Harper, je te rappelle. » Sujet pas mal plus léger. Je vous l'avais dit au début de l'émission, on va parler un peu du rapport Robillard, mais surtout un des volets du rapport Robillard qui m'intéresse le plus, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul, c'est par rapport à l'ouverture du marché de la vente d'alcool au Québec. Il y a quelque chose qui m'a impressionné en arrivant au Québec, vous le savez, je pense, hein, juste à écouter mon accent, je ne suis pas un Québécois de souche. Je suis arrivé au Québec il y a à peu près un peu moins de 15 ans. Mais quelque chose m'a vraiment surpris, c'est comment ça? Dans un pays occidental, civilisé, industrialisé, moderne, la vente d'alcool est un monopole public. J'en suis pas revenu. J'ai trouvé ça vraiment curieux. Je pensais que c'était le genre de choses qu'on pouvait retrouver dans des pays comme Cuba ou la Corée du Nord. Et j'exagère pas, là. C'est vraiment. On m'aurait parlé de ça avant mon arrivée au Québec. C'est la réponse que j'aurais donnée. Hein. En quoi l'État doit gérer les alcools? C'est ça d'abord la première question qu'on doit se poser. L'État gère-t-il la vente de jeans? L'État gère-t-il la vente de chaussures? Non. Il taxe. Il taxe d'ailleurs pas mal. Il taxera même peut-être encore plus, d'après ce qu'on entend. Mais il ne gère pas ces ventes-là. Pourquoi devrait-il gérer la vente d'alcool? Surtout qu'il la gère à moitié. La bière, on la trouve partout. On la trouve dans les dépanneurs, on la trouve dans les épiceries. Le vin, on a commencé à briser le monopole de la SAQ il y a quand même pas mal de temps avec ce qu'on appelle les vins de dépanneurs qui, ils essayent d'améliorer d'ailleurs la qualité des vins de dépanneurs, mais ça reste du vin de dépanneur. Pourquoi ça serait à l'État de contrôler l'alcool? Alors on dit que ça rapporte beaucoup d'argent. Oui, les taxes rapportent beaucoup d'argent. Si vous dites que, vous appliquez la TVQ sur les alcools, qu'ils se soient vendus en SAQ ou en épicerie ou dans des magasins spécialisés, la taxe est la même. J'irai même plus loin, vous n'allez pas payer des caissiers, des conseillers, payer très cher d'ailleurs, parce qu'ils sont syndiqués. Vous allez faire des économies sur les bâtiments parce qu'il n'y aura pas de magasins et de SAQ à entretenir. Tout ça va être confié à des épiciers puis à des vendeurs spécialisés en alcool comme dans beaucoup de pays européens ou aux États-Unis. Et l'argent va continuer à rentrer. À la limite, je suis prêt à concéder. Gardons la SAQ, mais ouvrons le marché. C'est-à-dire que la SAQ ne sera plus un monopole, mais plutôt va garantir que le vin soit aussi disponible dans toutes les régions du Québec. Allez, admettons. Si la SAQ est vraiment bon, s'ils sont vraiment les meilleurs, on va continuer à aller les voir. Tu sais, quand j'entends les représentants syndicaux, parce qu'eux, ils vont perdre des cotisations, hein, c'est pour ça qu'ils défendent la SAQ. Sinon, la SAQ, dans le fond, ils s'en foutent. Hein. Ils sont comme nous autres. Mais il y a moins d'argent qui rentrerait dans les caisses des syndicats. Fait que défendre la SAQ, ça devient tout d'un coup très important. Et ils disent, la SAQ, c'est beaucoup de diversité, c'est des bons conseils, ils ont fait beaucoup d'efforts, on est rendu très bon, et pastilles de goût, et puis tout ça. Encore une fois, si la SAQ est vraiment aussi bon que le disent les syndicats, les Québécois continueront à acheter leurs bouteilles de vin à la SAQ. J'irai encore à la SAQ acheter ma bouteille de vin. S'ils sont vraiment aussi bons qu'ils le prétendent, pourquoi j'irai voir ailleurs? Sauf que, ils sont beaucoup trop chers. Ils coûtent trop cher. On a vu d'ailleurs dans le rapport Robillard que un énorme pourcentage du budget de la SAQ était attribué à l'administration de la SAQ en tant que telle, puis qui est beaucoup, beaucoup plus importante que si on se compare avec la LCBO ontarienne ou avec les autres structures étatiques de vente d'alcool qui peuvent exister aussi au Canada. Bon, c'est sûr que mon point là-dessus, c'est est-ce qu'il y avait besoin d'une commission, d'un rapport Robillard pour savoir tout ça? Est-ce qu'il y avait besoin d'une commission Robillard, d'un rapport Robillard pour s'apercevoir que, un, la SAQ nous vole les Québécois, la SAQ est inefficace, puis le monopole en tant que tel n'a pas de sens en 2015. À une époque, on voulait contrôler la consommation d'alcool. Tu sais, une époque, un peu à l'image de, dans le fond, de la prohibition aux États-Unis, on voulait éviter que il y ait du monde qui sombre dans l'alcool. Bon, ça empêche rien. C'est comme si on me disait que l'Auto-Québec empêchait le jeu compulsif. On sait très bien entre vous et moi que c'est absolument pas le cas. C'est pas parce que c'est l'État qui contrôle le jeu qu'il y a moins de joueurs compulsifs. C'est ridicule de penser ça. C'est absolument pas le cas. On va juste obliger peut-être l'Auto-Québec à investir une partie de son budget pour combattre le jeu compulsif. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Mais ça, ce sont des choses qu'on peut aussi imposer à des sociétés privées. Alors de dire que la SAQ c'est ben important parce que comme ça on va éviter les problèmes d'alcool. Ouais, ben une chance qu'ils sont là parce que sérieusement, des problèmes d'alcool il y en a partout, que ça soit dans des pays qui contrôlent ou pas la vente d'alcool. Puis encore une fois, la bière on en trouve partout. Puis vous savez aussi bien que moi le principal problème d'alcool, c'est beaucoup avec de l'alcool qui coûte pas cher, en particulier la bière, surtout au niveau des jeunes. Ensuite, bon, y a le fort, mais ça, le fort, pouvait aller à la SAQ, puis sortir avec autant de bouteilles de rhum, de gin ou de calvados, de cognac que vous voulez, il n'y a personne qui va vous dire « Oh, mais je pense que vous avez pris un peu trop d'alcool. Est-ce que vous avez un problème d'alcoolisme ?» Bien sûr que non. Il faut sortir de ce monopole qui, comme je l'ai dit tantôt, nous coûte bien, bien trop cher. Avant de finir en musique, comme à chaque fois, je vais vous parler un peu du radioblog, du podcast en tant que tel, et puis d'abord vous remercier. Vous remercier parce que vous êtes pas mal plus nombreux que j'imaginais à m'écouter, en tout cas ces deux dernières semaines, pour les deux premières émissions. Ça m'a surpris beaucoup, et puis ça va me donner un peu l'occasion de parler du podcast en tant que tel. Moi j'avais fait ça parce que j'aime ça. Parce que j'avais envie de m'exprimer sur certaines choses et que parfois écrire un article, c'est beaucoup plus long. Et puis c'est pas forcément plus lu. Aujourd'hui, avec les 140 caractères de Twitter, les statuts Facebook et puis les SMS, j'ai l'impression qu'on prend moins le temps de lire des articles et surtout des longs articles. Le titre, l'intertitre, puis les sous-titres. Et que je pense que le podcast a ce côté flexible qui est très intéressant, c'est que vous pouvez l'écouter n'importe où. Vous pouvez l'écouter dans votre char, dans le trafic, chez vous, au travail. Vous pouvez l'emporter avec votre téléphone intelligent. Donc je trouvais ça intéressant, puis moi-même j'écoute des podcasts et je trouve ça le fun. J'aime énormément la radio parlée, vous le savez je pense que vous l'avez un peu compris, mais les podcasts, et il y a des podcasts québécois par exemple qui sont de très bonne qualité. Je vous ai parlé du Québec en balado par exemple la semaine dernière, mais il y en a d'autres. Je suis en train d'écouter Trois bières qui... Outre le titre, qui est un concept qui est assez intéressant, mais je vous en parlerai peut-être dans une prochaine émission. Moi, j'avais fait donc le radioblog au mois d'août pour Rodessa. Et puis, j'avais pas vraiment... vous allez trouver ça niaiseux, hein, mais le logiciel, le script que j'utilise pour publier le podcast, par défaut, ne compte pas les auditeurs. Je vous le dis, là, c'est vraiment niaiseux, là. Il faut cocher une option pour qu'il commence à compter les gens qui écoutent le podcast. Puis moi, la première émission, sérieusement, l'audience ne m'intéressait vraiment pas. Je voulais voir déjà comment ça fonctionnait, si ça publiait bien, si le lecteur sur le site internet quebecpresse.com fonctionnait également. Et puis, j'en avais parlé, je pense, sur Twitter et puis sur la page Facebook de Québec Presse, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs. Vous allez sur Facebook, Québec Presse, et puis vous abonnez à la page. Et puis, voilà, quand j'ai posté la deuxième émission la semaine dernière, je pense le lendemain, je me suis dit, hey, ça serait quand même le fun que je puisse savoir si je suis écouté. Tu sais, ne serait-ce que ça aide aussi à détecter s'il y a des problèmes. Tu sais, s'il y a zéro auditeur, c'est peut-être aussi parce que le fichier, il est peut-être mal placé ou il fonctionne mal. Donc, en fouillant un peu, j'ai finalement découvert cette fameuse option qui permet de compter les auditeurs. Et puis, je me suis aperçu que vous étiez quand même pas mal à m'écouter. Vous êtes plusieurs dizaines. Je pense que l'émission 2, donc l'émission de la semaine dernière, a été écoutée par une bonne cinquantaine de personnes. Fait que c'était loin des 3-4 que je m'imaginais. Ça me surprend parce que je pensais pas qu'avec aussi peu de publicité, il y ait autant d'auditeurs tout de suite. Je pensais que ça allait prendre quand même une couple de semaines. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est sûr que je vais pas dire que c'est pas ce que je voulais. Mais en même temps, ça donne un peu de pression. De la bonne pression parce que d'abord, ça va m'obliger à faire un épisode toutes les semaines. Et puis, ça va me forcer aussi à m'améliorer. En parlant d'amélioration, je veux remercier en particulier, j'ai eu quelques messages par courriel à l'adresse podcast@quebecpresse.com. J'ai eu par exemple le message de Denis. Je vais pas te donner ton nom parce que tu m'as pas mentionné si tu souhaitais que je mentionne ton nom de famille, fait que je vais t'appeler Denis. Je te remercie beaucoup pour tes commentaires. Tu m'as dit, par exemple, que la musique d'introduction était beaucoup trop longue. Et je l'ai réécoutée, et puis oui, t'as raison, la musique d'introduction était beaucoup trop longue, et je pense que ça durait 1 minute 40. Et encore, je l'avais raccourci parce qu'à l'origine, je pense que c'est plus de 2 minutes, fait que ça aurait pu être pire. Hein. Et Denis, je t'ai écouté parce que tu l'as entendu en début d'émission, le générique est beaucoup plus court. J'ai trouvé un générique à peu près dans le même style, assez rock, qui dure, je pense, 30-40 secondes grand max. Fait que je pense que ça sera pas mal plus efficace. Et ça, effectivement, comme tu me dis, ça me donnera l'occasion de parler un peu plus. Je sais pas si c'est forcément mieux, mais bon. Merci aussi pour tes autres commentaires. J'ai reçu un message d'insulte. Pas grand chose à dire là-dessus. Les mêmes choses habituelles. C'est marrant, hein. Beaucoup de monde qui connaissent pas trop la politique disent, par exemple, je suis libertarien. C'est mettre. Je suis pas libertarien. Je suis pas pantoute libertarien, même. Au niveau économique, je peux me rapprocher des libertariens au niveau économique. Mais au niveau de la société, au niveau de pas mal d'affaires, je suis pas vraiment d'accord avec les libertariens. Je suis pas à l'autre bout du spectre idéologique. Ça, c'est vrai. Je suis plus proche des libertariens, par exemple, que des socialistes. Oui, mais faut pas confondre les deux. Je me considère plus comme un conservateur, voire même un néo-conservateur, qu'un libertarien, par exemple. Les personnalités qui m'ont influencé et que je respecte énormément, c'est des gens comme Margaret Thatcher ou Ronald Reagan. Parce que c'est ça, je suis conservateur. Mais si vous lisez un peu Québec Presse, vous pouvez voir que dans le fond, c'est un média qui essaye de rassembler les idées de centre droit, de droite, de conservatrice, néo-conservatrice, libertarienne, voire nationalistes de droite. Mais ce sont autant de petites familles, mais des gens qui sont parfois très très différents, même si ils sont surtout du côté droit de l'échiquier politique, ça c'est vrai. Je m'en cache pas. Je pense que vous l'aviez compris d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Avant aujourd'hui en tout cas. Voilà, je fais le tour, je pense que c'est assez pour de parler du podcast. Je voulais un peu vous remercier en tout cas d'être à l'écoute, ça me fait très plaisir. Et puis comme je vous ai dit, ça me met un peu de pression. Ça donne envie de vous faire plaisir. Oui, on m'avait aussi suggéré donner un peu plus de place à des extraits audio. J'aimerais effectivement donner plus de place aux extraits audio. Il y en a eu deux ou trois pour cette émission-là. Mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut aller enregistrer les extraits, les découper. Pour les intégrer dans l'émission, et puis c'est pas toujours évident, en particulier l'émission de Anne-Marie Dussault, en passant, petite parenthèse, 24-60, j'ai essayé d'aller sur le site de Radio-Canada pour aller enregistrer cette émission. C'est marrant parce que les émissions sont disponibles en intégralité, mais pas celle-là. Alors je sais pas si c'était un add-on, si c'était un problème technique sur le site de Radio-Canada, mais j'ai pas pu le faire. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même pu trouver des extraits, comme vous avez pu le voir, ou l'entendre plutôt. Et puis, j'essaierai d'en mettre effectivement un peu plus dans les prochaines émissions. Des extraits audio parfois sont assez révélatrices. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. On se laisse comme toujours en musique et puis je vous invite encore une fois à m'écrire podcast@quebecpresse.com ou radioblog@quebecpresse.com, à visiter le site internet, la page Facebook et puis aussi le compte Twitter quebecpresse.com. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Radioblog de Québec Presse. Et en attendant, je vous laisse sur l'un des plus beaux morceaux du jazz moderne. Je veux parler de Miles Davis et le morceau s'appelle Tutu. Bye bye.